195 policiers et 950 gendarmes sur le terrain. Les forces de l'ordre seront déployées en nombre pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Ce matin, les Calédoniens sont une nouvelle fois rués sur les fruits de mer et les restaurants s'activent pour préparer les repas de fête. Dans la région, nouvelle saisie de drogue à Perth, la police fédérale a mis la main sur 200 kilos de cocaïne. François Bayrou dévoile son plan Mayotte debout. En déplacement dans l'archipel, il estime qu'il faudra 2 ans pour reconstruire. Et puis dans la page sport, nous ferons notamment le point sur le programme du jour, sur le tournoi BNP de tennis du Wentoro. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est donc le dernier jour de l'année et ce soir, 2024 basculera vers 2025. C'est le dernier jour de l'année et il était là endeuillé par un accident de la circulation à Lifou. Un homme de 26 ans est mort cette nuit alors qu'il était couché sur la route dans la tribu de Kirinata. Un automobiliste n'a pas pu l'éviter et lui a roulé dessus. Il était environ 1h du matin. La victime est donc décédée et l'automobiliste est lui toujours en garde à vue. Depuis le début de l'année, 32 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Calédonie. Notez qu'un pêcheur a également été blessé au harpon ce matin dans les îlots du Grand Sud au cours d'une chasse sous-marine au niveau de l'îlot Téré. Un homme de 35 ans s'est blessé avec une flèche de harpon dans la jambe. Il a été évacué par le SAMU au Médipôle. Deux faits divers qui doivent nous rappeler que la vigilance est de rigueur alors que la soirée de changement d'année est toujours un soir de fête. Et pour que la fête soit la plus réussie possible, les forces de l'ordre seront en nombre sur le terrain. Elles seront déployées sur tout le territoire, nous a dit ce matin Anaïs Haït-Mansour, la directrice de haut cabinet du haut commissaire qui était notre invitée à 7h30.
Pour cette nuit, on a un grand dispositif sur l'ensemble du territoire. Sur Nouméa, on compte à peu près 195 policiers. C'est assez conséquent, qui vont être présents sur les prochaines 24 heures. 195 policiers sur le terrain, policiers nationaux, policiers municipaux également. Et vraiment, je remercie la police municipale de Nouméa avec laquelle on travaille vraiment en fluidité. Et sur le reste du territoire, on va monter à 950 gendarmes mobilisés sur les prochaines 48 heures avec une montée en charge et en puissance durant cette nuit. Donc non, là, on a un dispositif qui est conséquent, largement supérieur à celui de l'année dernière, avec un volet prévention. Ça va être le cas à 1h du matin dans le Grand Nouméa. Voilà, prévenir les gens que le couvre-feu va arriver. Et puis un volet contrôle routier assez conséquent et répression s'il y a besoin, en effet.
À Nouméa, au Mont-d'Or, à Dembéa et Païta, donc un couvre-feu a été mis en place, vous le savez, pour la nuit prochaine et la suivante. Couvre-feu qui débutera à 1h du matin et se terminera à 6h.
L'objectif, en fait, était surtout un objectif de sécurité routière lié à la forte consommation d'alcool qu'on peut attendre lors de ce type d'événement. Voilà, le bilan de la sécurité routière a été assez alourdi ces dernières semaines. On a eu 5 morts lors d'un week-end. On a échangé avec les maires du Grand Nouméa sur les meilleures dispositions à prendre pour concilier un peu le fait de se retrouver, de fêter la nouvelle année 2025. Voilà, cette fin d'année, c'est des moments où on se retrouve en famille. Et en même temps, cet impératif de sécurité routière et sécurité de tous. Donc, on est arrivé à cet équilibre qui était un couvre-feu entre 1h et 6h du matin sur le Grand Nouméa uniquement.
D'une manière générale, les opérations de sécurisation restent la priorité des forces de l'ordre. Le retour progressif à la normale leur permet aussi de mener des opérations de déblayage. C'était le cas ces derniers jours encore, nous a dit Anaïs Haït-Mansour.
On a mené pendant ces dernières 24 heures, on va continuer aujourd'hui, de nombreuses opérations de déblaiement, notamment à Nouméa, dans les quartiers Rivière Salée, Magenta, Vallée du Tir, où on a un dispositif pour déblayer. Et ça aussi, c'est toujours en bonne intelligence avec la commune, la police municipale, des entreprises privées qui sont là pour déblayer. Et là, il y a une quarantaine de bennes qui ont été retirées ces 4 derniers jours. On continue sur Saint-Louis aussi, le long de la RP1. Il y a une large opération de déblaiement. Il y a eu jusqu'à 80 tonnes de déchets retirés. Ça aussi, ça rapporte de la sérénité aux Calédoniens, voilà, de voir l'espace public propre, se dire qu'on passe à autre chose. Ça participe à ça, le fait d'avoir un environnement, une voie publique qui soit nettoyée. Donc on y est aussi vigilant.
Anaïs Haït-Mansour, la directrice de cabinet du haut-commissaire, qui était donc notre invitée ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver cette interview en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à notre question d'hier et 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il était nécessaire d'instaurer un couvre-feu dans les 4 communes de l'agglomération pour le réveillon du nouvel an. Ils sont 17% à penser que ce n'était pas nécessaire. Et puis voici notre question du jour. qu'est-ce qui vous semble le plus important pour 2025? Si c'est trouver une stabilité politique et institutionnelle, vous tapez 1. Si c'est favoriser le vivre ensemble, vous tapez 2. Si c'est retrouver du pouvoir d'achat, vous tapez 3. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est donc dans quelques heures. 2025 arrive à grands pas et ce soir, vous serez nombreux à réveillonner en famille ou entre amis, à la maison, chez les copains, mais aussi pour certains d'entre vous, Lionel Sabot, dans les restaurants de Nouméa.
Ah oui, et il y en aura pour tous les goûts. Alors bien sûr, on retrouve les grands classiques, hein, fruits de mer, foie gras, champagne, à consommer toujours avec modération. Au Café Del Paps à Nouville, on a sorti la totale. Le responsable de salle, Dimitri, nous présente ce que le chef a préparé pour ce 31.
Alors c'est le chef qui a élaboré ce menu, donc oui, il a fait parler son savoir. Vous avez une brouillade d'œuf avec des crevettes en amuse-bouche. En entrée, on vous propose une terrine de foie gras avec une salade d'herbes, des toasts, de l'huile de truffe et une gelée de fruits rouges. Pour les plats, donc c'est un choix, vous avez du gratin de langouste avec une bisque de crustacés, ou bien vous avez un croustillon de wagyu avec un millefeuille de pommes de terre à la truffe et une sauce vin rouge. Ce que l'on vous propose en dessert, c'est une pavlova à la noix de coco et fruits de saison. C'est des plats que l'on peut retrouver de temps en temps en plat du jour, mais il a voulu vous le concocter pour la Saint-Sylvestre. Il faut des petits produits d'exception pour passer un agréable moment.
Autre salle, autre ambiance, à l'Elyséum, à Lanzvater, on a décidé de mêler le festin à la fête avec un menu convivial, une dizaine de tapas aux saveurs méditerranéennes, mais avec des produits locaux. Bruno Fortin est le directeur création et communication du restaurant.
Chez Elysium, on propose deux types de formules. En fait, on a décidé de faire une soirée festive. Donc, on a une formule avec 10 tapas dégustation plutôt bistronomique. On commence cette formule avec des Saint-Jacques qui sont poêlés au champagne. Donc, du coup, ça va être plutôt, on va dire, une mise en bouche. Ensuite, on a un lobster roll. Donc, en fait, c'est un pain brioché qui est garni de langoustes de l'île des Pins qu'on assaisonne avec une mayonnaise et des herbes fraîches. Après, on aura également le poulpe grillé qui est un des vraiment des best-sellers d'Elysium que, on va dire, les gens qui viennent chez nous connaissent. Et en plus de, donc, du coup de cette formule, on a une deuxième formule qui est une formule, on va dire, plus abordable, qui comprend donc l'entrée à la soirée, une coupe de champagne et du coup, vous pourrez bien sûr bénéficier de tapas à la carte.
Et direction pour finir, Le Rouf, le restaurant sur Pilotis de Lanzvater pour cette soirée très spéciale du 31 décembre. Le chef a lui aussi décidé de mettre les petits plats dans les grands avec un menu mêlant plats traditionnels et produits locaux. Écoutez le directeur du restaurant.
Les gens vont pouvoir découvrir donc un bavarois à la truffe avec une duxelle de champignons en amuse-bouche. Ensuite, on va partir sur un saumon fumé avec un blinis, une crème légère citronnée, tout simplement. Et ensuite, un royal de foie gras avec un miel de Nouvelle-Calédonie au beurre de truffe. Pour le poisson, on est sur du mai-mai poché au lait d'amande avec une croûte de noisette, des poireaux en papillote et un condiment kiwi. Et pour la viande, ça sera un gigot d'agneau de 7 heures. Effiloché avec un jus corsé à la framboise et une embeurrée de choux. Et on terminera tout ça avec un dessert qui est un délice cassis avec une crème légère à la châtaigne, une meringue croquante et une ganache montée à la vanille de l'ifou et à la fève de tonka. Moi je trouve que le rituel autour du repas est assez réconfortant. C'est une soirée importante pour pas mal de gens de passer un bon moment en famille, entre amis, en couple. On va essayer de faire en sorte que les gens puissent se réveillonner sur la longueur au restaurant.
Et si tout cela vous a mis en appétit, notez qu'il reste encore quelques tables disponibles au Rouf. Les réservations sont possibles au 25 07 00, le 25 07 00, et bon appétit bien sûr.
Et pour celles et ceux, c'est pas fini Lionel, pour celles et ceux qui vont passer le réveillon en famille ou entre amis, le menu de choix sera composé essentiellement de poissons ou de fruits de mer. Les clients du marché municipal ont pris d'assaut le pavillon de la poissonnerie ce matin, comme l'a constaté Kélinda Boicou.
On va avoir des huîtres, du saumon bien sûr, de Nouvelle-Calédonie, et du champagne. Et bien sûr, la bûche de Noël.
Ça va être un repas normal. Poisson, langouste.
Je vais faire simple, en fait. C'est que l'entrée pour ce soir. Langouste, des moules, et puis des sashimi. Comme il fait chaud, ben voilà.
Du poisson, salade de poisson. En gros, c'est ça, oui.
On a prévu des moules, puis des salades crevettes, des salades de poulpe et tout. Puis il y aura des plats chauds, tout ça.
T'as oublié les langoustes? C'est que des fruits de mer avec des feuilles, une marmite de patates.
On est tout seul, moi et puis ma femme. Les enfants, ben, ils sont tous invités. Ils vont à droite, à gauche. Et bon, ben, nous, on va peut-être un petit peu de langoustes, puis des huîtres. Pas grand-chose, mais les traditionnels.
Ça sera un plateau de fruits de mer, foie gras et saumon. Comme il fait chaud, il n'y a que ça à faire. Quoi.
Des propos recueillis donc ce matin au marché municipal de Nouméa par Kélinda Boicou. On en vient à l'actualité dans la région qui est marquée par une nouvelle saisie de drogue. Et cette fois-ci, c'est à Perth, la capitale de l'Australie occidentale, où 200 kilos de cocaïne ont été découverts par la police fédérale. Valeur estimée à la revente, 6 milliards de francs pacifiques. Jean-Pierre Zajac.
Un Sud-Africain de 44 ans et un Australien de 48 ans ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. La fouille de leur chambre d'hôtel a abouti à la découverte non seulement de 200 blocs de cocaïne d'un kilo chacun, mais aussi de lunettes de vision nocturne, d'équipements de navigation aérienne et d'une radio VHF. Les enquêteurs de la police fédérale ont établi que les deux individus se sont rendus de nuit sur une piste d'atterrissage très isolée, située environ 700 km au nord de Perth, où ils ont utilisé leur radio VHF pour y guider un petit avion dont ils ont débarqué 200 kg de cocaïne à l'aide de leurs lunettes de vision nocturne. Tous deux ont été inculpés hier pour trafic de stupéfiants. La police fédérale a indiqué poursuivre son enquête pour établir la provenance de la drogue et de l'avion qui la transportait. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h42, une première pause dans ce journal. On voit dans un instant ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Pour vos fêtes de fin d'année, votre magasin Hyper Upaïta vous accueille avec des horaires exceptionnels.
Vendredi 27 et samedi 28 décembre de 8h à 21h. Dimanche 29 décembre toute la journée de 8h à 20h. Lundi 30 décembre de 8h à 21h. Et mardi 31 décembre de 8h à 18h. Et profitez de nos prix bas dans notre catalogue festif pour illuminer vos fêtes.
Toute l'équipe de votre magasin vous souhaite de joyeuses fêtes.
Hyper U, sortie Païta Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper U Païta NC.
Hyper U, la qualité notre métier, le prix notre priorité.
U, commerçant autrement.
Mardi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Les Trois Brasseurs au 24 15 16. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Les Trois Brasseurs.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
François Bayrou, en déplacement à Mayotte, a dévoilé son plan Mayotte debout pour reconstruire l'archipel dans les deux ans après les terribles dégâts infligés par le cyclone Chido. Le Premier ministre, accompagné par cinq membres de son gouvernement et notamment le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a également annoncé le rétablissement de l'eau courante d'ici la fin de la semaine, le retour de l'électricité dans tous les foyers à la fin du mois de janvier. Quant à la reconstruction, il y aura des prêts garantis par l'État et il n'est plus question de laisser les bidonvilles se réinstaller, a déclaré François Bayrou, qui s'est aussi emparé de la question migratoire. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Selon François Bayrou, il serait irresponsable de ne pas s'attaquer, je cite, au problème brûlant de l'immigration. Pour éviter de fragiliser davantage l'archipel mahorais, le Premier ministre veut freiner l'arrivée de nouveaux migrants. Il annonce donc la formation de 300 gendarmes, la remise en état des radars et le retour des patrouilles aériennes et maritimes pour protéger les frontières. Mais François Bayrou relance surtout la question de la suppression du droit du sol à Mayotte.
C'est une question qu'il faut poser, que j'avais posée dans une campagne présidentielle antérieure, si vous fouillez vos bulletins. À Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés particulières, très, très localisées.
Seul problème, 20 ans après avoir alerté sur le sujet, François Bayrou ne donne toujours aucune échéance à cette initiative. Sa révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte risque même d'être retoquée par le Conseil des Sages. Alors, pour tenter de dissuader les futurs clandestins, le Premier ministre annonce interdire la reconstruction des bidonvilles.
Justice, et il y aura un second procès des viols de Mazan. 17 des 51 accusés ont en effet fait appel du jugement prononcé par la Cour criminelle d'Avignon. Le principal accusé, Dominique Pénicaud, qui a administré des sédatifs à sa femme pendant 10 ans pour la livrer à des hommes recrutés sur Internet, n'a lui pas fait appel de sa condamnation. Il purgera donc sa peine de 20 ans de prison. Et puis toujours au chapitre justice, l'enquête sur la gestion de la crise Covid par les pouvoirs publics est close. Plusieurs personnalités politiques étaient en cause, le Premier ministre de l'époque Édouard Philippe et 2 anciens ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran. Et tous les 3 ont été placés sous le statut de témoins assistés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux, explique Geoffrey Branger pour Europe 1.
Cela signifie que les investigations menées pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre n'ont pas révélé de faute des 3 anciens ministres dans la gestion de la crise sanitaire. Ce matin, le procureur général Rémy Heitz a indiqué à l'AFP qu'un avis de fin d'information judiciaire a été délivré le 28 novembre, il y a donc plus d'un mois. Une enquête déclenchée après plusieurs plaintes dénonçant dès le début du confinement en mars 2020 le manque d'équipement de protection pour les soignants et la population, ou encore les hésitations autour de la nécessité ou non de porter des masques. Dans cette affaire, seule Agnès Buzyn a un temps été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, mais elle en a obtenu l'annulation en janvier 2023 par la Cour de cassation. Maintenant que la Cour de justice de la République s'est prononcée, il revient au parquet général puis à la commission d'instruction de donner d'éventuelles suites judiciaires. Mais sans mise en examen, la procédure n'a désormais que très peu de chances d'aller plus loin et devrait se diriger très probablement vers un non-lieu pour les anciens ministres.
Et puis l'actualité en métropole, c'est aussi Stéphane Bern qui est vent debout contre l'installation de 6 vitraux contemporains prévus sur l'une des façades de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il voit dans cette installation un caprice du président de la République, Emmanuel Macron. L'animateur de télé spécialiste de l'histoire envisage même de s'opposer à cette installation avec l'aval du ministre de la Culture. Écoutez-le.
Pardon de le dire, mais l'État contrevient aux règles de défense du patrimoine en voulant démonter des vitraux anciens. C'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est cela qui me choque le plus. L'État s'arroge le droit de ne pas respecter des règles qu'il impose à tous. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est le fait du prince, oui, de vouloir avoir des vitraux contemporains. Et c'est contre ça que je m'érige. On ne peut pas à la fois faire respecter la loi et en même temps contrevenir soi-même à la loi. Est-ce qu'on a vraiment 4 millions d'euros à dépenser pour démonter des vitraux qui ont résisté à l'incendie et pour mettre des vitraux contemporains? Je ne crois pas.
Stéphane Bern qui annonçait par ailleurs qu'il allait engager des recours pour empêcher l'installation de ces nouveaux vitraux. L'actualité à l'étranger, l'Ukraine et la Russie annoncent un nouvel échange de prisonniers. 150 soldats de chaque camp ont retrouvé leur pays. Opération qui s'est déroulée sous l'égide des Émirats Arabes Unis. Et puis toujours en bref, la Corée du Sud a décrété 7 jours de deuil national après le crash d'un avion à l'atterrissage dans une ville du sud du pays. Crash qui a fait 179 morts sur les 181 occupants de l'appareil, un Boeing 737-800. Tous les appareils du même type seront soumis à une inspection complète. L'ancien président américain Jimmy Carter s'est éteint hier à l'âge de 100 ans. Il avait fait un mandat à la Maison-Blanche entre 77 et 81 avant d'être battu par Ronald Reagan. Mandat au cours duquel Jimmy Carter, comme dans toute sa vie politique, a mis sa foi en avant. Caroline Baudry pour Europe 1.
Fervent baptiste, amateur de gospel, Jimmy Carter défend mordicus des valeurs chrétiennes dites progressistes. Rares à l'époque, la défense des droits fondamentaux est au cœur de sa politique dès son discours d'investiture en 1976.
Notre engagement envers les droits de l'homme doit être absolu. Nos lois justes, notre beauté naturelle préservée. Les puissants ne doivent pas persécuter les faibles.
Il apparaît à l'Amérique croyante comme un rédempteur, selon Randall Balmer, historien des religions et biographe de l'ex-président.
Les États-Unis sortaient tout juste de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate. Lyndon Johnson avait menti à propos de la guerre du Vietnam. Richard Nixon à propos du Watergate et bien d'autres choses. Et Jimmy Carter arrive et il dit « Je ne mentirai jamais sciemment au peuple américain ». Et c'était une idée radicale à l'époque.
Promesse tenue, selon ce spécialiste, mais le démocrate se heurte à la révolution islamique en Iran et au choc pétrolier. La droite religieuse conservatrice déferle en Amérique, porte le républicain Ronald Reagan au pouvoir. Jimmy Carter quitte la Maison Blanche et poursuit son engagement, un pied à l'étranger où il œuvre pour la paix, l'autre dans la petite église de sa ville natale où il enseigne le catéchisme jusqu'à l'âge de 90 ans.
Il est 11h50 dans ce journal. La dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Cette année, votre champ Kéféri vous fait le plus beau des cadeaux. On vous simplifie les fêtes. Plateau de fruits de mer, foie gras maison, menu gourmand de l'apéritif au dessert, plateau de charcuterie, fromage et de délicieuses préparations bouchères, nos équipes mettent leur savoir-faire à votre disposition. Passez commande au 24 30 60 ou directement dans votre champ Kéféri.
Le BNC Tennis Open arrive du 29 décembre au 4 janvier à la Ligue de Tennis au Wentoro. Venez assister à l'événement tennis de l'année avec plus de 50 joueurs internationaux surmotivés pour succéder à Arthur Cazot. Que vous soyez fan de tennis ou simplement à la recherche d'une expérience unique, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. En journée ou en soirée, vivez l'intensité du BNC Tennis Open dans une ambiance exceptionnelle. Qui remportera la 20e édition? Venez le découvrir à l'occasion du BNC Tennis Open du 29 décembre au 4 janvier au Wentoro. Info et billets sur www.bnctennisopen.nc.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
La page sport avec d'abord du tennis et la suite du BNC Tennis Open au Wentoro. Adrian Manarino et Benoît Paire feront cet après-midi leur entrée dans le tableau simple, Lionel.
Oui, Adrian Manarino ne fera pas son entrée sur le court Juan Gaudrella avant 16h pour son premier match de la saison. Le triple vainqueur de ce tournoi, qui est tête de série numéro 1, faisons les accords correctement, affrontera le japonais Yusuke Takahashi. Adrian Manarino, ravi de revenir à Nouméa pour débuter la saison.
C'est un tournoi où je me sens très bien, j'ai déjà eu des bons résultats dans le passé, et puis voilà, je sais que c'est une très bonne préparation pour les échéances à venir, y compris l'Open d'Australie dans 2 semaines. Je suis hyper content d'être de retour. C'était pas forcément attendu au départ, mais finalement, après avoir discuté avec Olivier, voilà, on s'est dit que c'était quand même une bonne occasion pour moi de lancer la saison, et je suis hyper content d'être de retour. Et puis voilà, il y a des bons joueurs, c'est toujours une super préparation, ça permet de faire des matchs. Dans le passé, ça m'avait plutôt bien réussi, et j'espère en tout cas que ça va bien se passer cette semaine aussi.
Adrian Manarino affrontera donc le japonais Takahashi, un match qui sera suivi par la rencontre qui verra une confrontation entre Benoît Paire et le joueur des Mariannes du Nord, Colin Sinclair. Un mot des autres rencontres de la journée, Liam Branger, calédonien d'adoption, qui est sorti des qualifications hier, rencontrera le japonais Ishikawa. Le français Charlie Camus, qui a bénéficié lui d'une carte d'invitation, affrontera pour sa part un autre japonais, Ogura, qui est issu des qualifications.
Voilà un tournoi à suivre, vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, tous les jours à 17h, avec une table ronde en direct des cours du Wentoro, les derniers résultats, les interviews, les coulisses aussi du tournoi. C'est donc sur Radio Rythme Bleu, tous les jours de la semaine à 17h. On va passer à la voile, Lionel, avec la suite du Vendée Globe et un changement de leader en tête de la flotte.
Effectivement, puisque c'est désormais Charlie Dalin sur Massif Centré Prévoyance qui mène la flotte. Au dernier pointage, il comptait un peu plus de 30 000 d'avance sur Johan Richaume, sur Paprec Arkea. Les deux hommes qui remontent l'Atlantique et qui foncent en direction des Sables d'Olonne, qui pourraient arriver d'ailleurs d'ici le 15 janvier. C'est le 50e jour de course sur le Vendée Globe, un 50e jour marqué par l'abandon de Yannick Bestaven sur Maître Coq 5. Le vainqueur de la précédente édition a dû renoncer juste avant de franchir le Cap Horn. Il n'a pas réussi à réparer son bateau qui a été endommagé dans le courant de week-end. Écoutez Yannick Bestaven.
Je dois abandonner le Vendée Globe maintenant pour réparer. C'est comme ça. Tous ces efforts et c'est pas grave. On va positiver. Même si je suis hors course, j'aimerais rallier les Sables d'Olonne en solitaire, mais on verra en fonction du diagnostic mon équipe technique et de ce qu'on peut faire au niveau réparation.
Yannick Bestaven qui est arrivé à Ushuaïa il y a quelques heures et qui a donc abandonné alors qu'il pointait en 11e position de ce Vendée Globe. Pour le moment, 10 bateaux ont franchi le Cap Horn, le dernier grand cap de la course.
Merci Lionel, 11h55, c'est la fin de ce journal. Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. Ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi à tous.